Et donc, ça c'était pour faire la transition. Hop, je mets quand même dans un coin les participants et la salle d'attente. Et on va reprendre bah, le fil justement de ce qui se passe pour Apple. Du coup, bah, Apple va entrer en phase de ce qu'on appelle parfois pour les startups l'hypercroissance. Hein. Très vite, les ventes atteignent plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, puis plusieurs centaines de milliers. Après, dans les années 80, ce sera plusieurs millions. Hein, donc, on voit bien qu'on change complètement d'ordre de grandeur par rapport à la situation de départ du marché, d'ailleurs, dans son ensemble. Apple va faire assez vite enfin, va rapidement faire des bénéfices et va les réinvestir non seulement dans la recherche et développement pour améliorer ses produits, mais aussi, et c'est une vraie différence par rapport à certains de ses concurrents, dans ses capacités de production, à la fois en termes de quantité et en termes d'automatisation des processus. Donc assez vite, Apple va se trouver avec l'appareil de production le plus moderne et le plus avancé dans le monde de la micro-informatique. Bon, il sera détrôné par IBM en 1981, mais à ce moment-là, là où on est à la fin des années 1970, c'est un atout, un avantage concurrentiel d'Apple par rapport à ses concurrents de l'époque. Assez vite, il génère un flux de trésorerie, si bien que il n'y a pas de. C'est pas une entreprise qui, comme beaucoup de startups, a besoin de ses tours de table pour survivre. Voilà, il y a eu une injection assez forte d'argent par Mike Markela assez tôt dans la vie d'Apple. Je ne saurais pas vous dire exactement en quelle année. Je crois que c'est 1977 aussi. Ce qui lui a permis de se développer, hein, parce que par contre, c'est pas avec les petits flux et les petits bénéfices qu'il faisait les toutes premières années qu'ils auraient pu se développer rapidement, hein. Donc il y a quand même eu levée de fonds, mais en fait, ça s'est fait essentiellement avec l'apport d'une personne et en une fois. En 1980, l'entreprise est introduite en bourse, donc vous voyez qu'elle n'a que 4 ans. Ça, c'est un phénomène que l'on voit souvent dans les startups. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi, déjà, parmi les entreprises de technologie, il y a un nombre beaucoup plus élevé, une proportion beaucoup plus élevée d'entreprises qui sont cotées en bourse. Et d'autre part, pourquoi les startups, puisque c'est encore au sens au moins large, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est encore une startup en 1980, pourquoi des startups s'introduisent en bourse si vite? Personne n'ose se lancer. Ça fait un grand silence sur l'enregistrement. Alors, la principale explication, elle réside dans ce que l'on a dit avant sur justement le mode de financement principal des startups qui, elles, même si je viens de dire que pour Apple, ce n'était pas vital, hein, la start-up classique, on va dire, type, elle a besoin de lever des capitaux propres. Et donc, l'introduction en bourse, elle a deux fonctions par rapport à ça. D'une part, l'entrée en bourse est généralement l'occasion d'émettre de nouvelles actions. Donc de faire une augmentation de capital et donc de lever des fonds supplémentaires. Et puis d'autre part, Les investisseurs, ils rentrent dans une entreprise pour en sortir. Il faut bien voir que les fonds de capital risque ou les business angels, ils ne rentrent pas dans l'idée qu'ils vont rester 30 ans, 40 ans. Enfin, ils ne rentrent pas dans la même optique que l'entrepreneur qui crée sa société puis veut la léguer à ses enfants, etc. On n'est pas du tout dans ce mode-là. Et donc, ben, ça offre une porte de sortie, en fait. Aux investisseurs. Donc, ça c'est un élément important, même si je vous ai dit que les aspects financement, on y reviendrait de manière beaucoup plus détaillée dans le cours sur la gestion des projets innovants. Mais bon, il y a quand même quelques éléments clés que vous pouvez avoir en tête dès maintenant. Alors, l'autre difficulté, bah, elle est liée au fait que les entreprises, les startups, typiquement au départ, ont des structures très organiques. Hein, si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu ensemble, notamment dans le cas d'Apple, hein. Donc elles ont un mode de management très informel, qui est parfaitement adapté à une entreprise dont le but principal au départ est d'innover, mais qui devient problématique lorsque bah, ça commence à être une entreprise de taille plus importante et qui commence à avoir aussi des activités récurrentes qu'elle a besoin de faire de manière efficiente. Et là-dessus, Apple a été assez original. Puisque dès 1977, ils font appel, je crois que je vous l'avais déjà signalé, au directeur de la production de la principale entreprise de semi-conducteurs de la Silicon Valley, puisqu'on commence à utiliser ce terme-là en 1977, je crois qu'il date de 1973, pour structurer l'entreprise et alors notamment pour structurer la partie production. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'aussi vous pouvez, dans certains services, dans certains départements, garder une structure qui reste relativement informelle, qui est proche de la structure organique. C'est ce qui se fait dans les activités de R&D d'Apple à ce moment-là, qui sont encore à une taille raisonnable. Par contre, bah comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui cherche à augmenter rapidement ses capacités de production, à rendre la fabrication efficace. Elle va aussi avoir un taux de défaillance sur ses produits inférieur à ceux des concurrents, etc. Et ça, c'est largement lié à l'arrivée de Michael Scott. Ils vont beaucoup moins tâtonner comme le fait une start-up au moment où elle met en œuvre habituellement ses processus de fabrication. Il faut dire que bon, Wozniak, c'était avant tout un bricoleur, hein. Jobs avait déjà quand même une vision assez ambitieuse. Mais finalement, celui qui voit le plus le potentiel d'Apple, c'est le troisième associé dont on parle peu, qui est arrivé après, hein, et qui a injecté les fonds nécessaires pour le développement à nettement plus grande échelle d'Apple, donc qui s'appelle Mike Marcola. Et son objectif était d'atteindre 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 10 ans. On va voir si Apple l'a atteint ou pas, mais en tout cas, quand on veut atteindre cet objectif-là, évidemment, il faut structurer un minimum l'entreprise. D'ailleurs, en 1980, au moment où elle est introduite en bourse, Apple compte déjà 1000 salariés. Donc, vous voyez, on a une entreprise qui a été créée en 1976, mais en 1976, c'est encore deux bricoleurs dans un garage, hein. Donc, elle démarre véritablement en tant qu'entreprise en 1977. Donc, c'est là où commence véritablement la croissance de l'entreprise. Et donc, en 1980, après, on va dire, 4 ans de croissance, elle a déjà 1000 salariés. Donc, on n'est pas loin d'avoir embauché un salarié par jour, quoi, si vous voulez, en moyenne sur la période. Donc c'est ça qu'on appelle l'hypercroissance, hein, chez les startups. Alors, je vous ai mis un petit graphique avec le chiffre d'affaires et le résultat net d'Apple sur ses premières années. Alors, le chiffre d'affaires est en millions de dollars et le bénéfice net en centaines de milliers de dollars. C'est un peu bizarre comme unité, mais c'est pour que les deux courbes voilà, aient à peu près le même ordre de grandeur. Et du coup, bah, ce que vous constatez, c'est que les objectifs fixés par Mike Mark là ont été largement dépassés. Puisqu'en 1983, donc alors que ça ne fait pas 10 ans hein, que l'entreprise est née, eh bien, elle réalise déjà quasiment 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et pour à peu près 80 millions de dollars de bénéfices. Alors, ce n'est pas l'Apple d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Mais pour, encore une fois, pour une entreprise qui a l'âge qu'elle a à ce moment-là, c'est quand même pas mal du tout. Alors, tout va bien, mais il y a une question qui commence à se soulever à ce moment-là, à cette période-là chez Apple, c'est OK. On a finalement un seul produit. Alors évidemment, il est décliné en plusieurs versions, etc. Hein. Il y a une gamme, mais et puis il y a des logiciels autour, il y a des périphériques autour, imprimantes, mais le cœur du système, c'est donc l'Apple II, puisque les périphériques sont des périphériques pour Apple II, les logiciels sont des logiciels pour Apple II, et donc bah, tout le chiffre d'affaires d'Apple repose donc sur un produit, même si encore une fois il est décliné en plusieurs produits et pas encore trop services. Mais voilà, Or, évidemment, y a plein de nouveaux concurrents qui arrivent avec des produits quand même de plus en plus performants. Au passage, le fait que toute la croissance d'une entreprise repose sur un seul produit, c'est le cas le plus fréquent chez les startups, hein. Généralement, une startup, elle est créée pour développer puis lancer un produit. Et voilà, elle se lance là-dessus. Et après, bah, si elle a des moyens suffisants, elle va pouvoir diversifier sa gamme de produits, mais voilà, elle va généralement rester un certain temps en étant dépendant que d'un seul produit. Je lisais cet après-midi un article, alors sur une start-up qui est pas du tout, enfin qui est pas particulièrement technologique, mais qui est HelloFresh. Et typiquement, bah, eux, donc c'est ils vendent des abonnements qui vous permettent de recevoir toutes les semaines, je crois, une box avec bah, des menus pour la semaine que vous devez cuisiner vous-même. Et donc il y a tous les ingrédients et bien sûr les recettes pour faire de la cuisine saine. Et ben, ils ont connu une très très forte croissance, évidemment encore accélérée pendant le Covid. Ils ont commencé un petit peu à lancer un autre produit qui est des plats préparés. Mais là, en fait, ils sont confrontés à une chute de leur activité parce que justement, leur activité principale plafonne, voire diminue. Et pour l'instant, l'activité relais bah, n'a pas vraiment pris le relais. Donc, c'est juste pour avoir un exemple d'actualité. Là, c'est vraiment c'est un article d'il y a 15 jours ou quelque chose comme ça. Donc pour illustrer ce type de difficulté, hein, parce que aussi lorsque son produit est en pleine croissance, On est très concentré sur comment faire bah, pour internationaliser le succès, pour faire face aux nouveaux besoins de production, donc pour agrandir ses usines, voire en construire de nouvelles, etc. Donc l'attention des dirigeants est quand même très très centrée sur la croissance du produit qui est à l'origine du succès de l'entreprise. Et puis, bah, du coup, on peut perdre un petit peu de vue le fait que bah, la croissance de ce produit n'est peut-être pas infinie. Alors, on a vu un contre-exemple hein, avec Intel, mais pour qui une forme de hasard a quand même aussi joué un rôle. C'est-à-dire que probablement que si Busicom n'était pas venu les chercher pour faire des puces pour ses calculatrices, bah, ils n'auraient pas inventé le microprocesseur. Donc déjà, ils seraient restés dans les mémoires. Après, bon, les proms, c'est plus du hasard d'expérimentation. Donc je dirais, c'est moins stratégique, où il n'y a pas de raison. Enfin, on peut pas dire. Si je dis si Dov Froman n'avait pas expérimenté ça, il aurait pas les proms, oui, mais à ce moment-là, on peut enlever tous les produits de toutes les entreprises. Mais donc, grosso modo, quand même, et on va voir qu'évidemment, chez Intel, la diversification vers les microprocesseurs aura une importance considérable. Sinon, probablement que l'entreprise aurait disparu aujourd'hui. Hein. Donc là, on a un contre-exemple, mais chez Apple, en 1980, on est encore enfin, fin des années 70, on est encore sur du monoproduit au sens large. Hein. Quand je dis là encore hein, qu'ils vendent que l'Apple II, ils vendent des périphériques pour Apple II, ils vendent des logiciels pour Apple II. Donc il a bien un catalogue de produits, mais entièrement centré sur l'Apple II. C'est-à-dire si on arrête de vendre l'Apple II, ils pourront continuer à vendre un peu de périphériques, puis ça dégringolera après. Les logiciels un petit peu plus longtemps, mais là encore, ça finira par dégringoler aussi. Alors donc, à la fin des années 70, mais toute fin hein, des années 70, je pense que c'est 1979, Apple va lancer deux projets pour succéder à l'Apple II. Le premier est vraiment dans la continuité de l'Apple II. Il est plutôt porté et il est piloté par Steve Wozniak. Et ils ne feront pas preuve d'une immense imagination, puisque du coup, ils l'appellent l'Apple III. Il est lancé en 1980, mais alors là, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, puisque ce sera un des plus cuisants échecs, des plus cuisants échecs de l'histoire d'Apple. Probablement le plus. Alors, comment s'explique-t-il? Bah d'abord, au niveau de sa conception, les problèmes de surchauffe n'ont pas été suffisamment pris en compte. Pour essayer de faire un ordinateur suffisamment compact, on n'a pas prévu de ventilation. Et du coup, bah, il y a au début des vrais problèmes de surchauffe des Apple III. Donc, des fois, on est obligé d'arrêter de les utiliser tellement ça chauffe. D'autres fois, bah, ça chauffe tellement que ça bug. Et on a même eu, visiblement, quelques personnes qui ont eu la désagréable surprise, après quelques heures d'utilisation, de voir une sorte de fumée un peu sortir de leur Apple III, qui après était mort. Donc évidemment, ça ne lui a pas donné une excellente réputation au départ. Et puis, alors évidemment, ça va. Ce premier aspect va accentuer le deuxième. C'est qu'à aucun moment ils vont réussir à déclencher bah, le cercle vertueux qu'on a étudié ensemble, hein, des externalités de réseau. Encore une fois, externalité de réseau ou rendement croissant d'adoption, c'est synonyme ici. Et donc, alors, ça s'explique par le fait qu'évidemment, après que les problèmes de qualité ont été connus, il y a un moment de flottement un petit peu où on se dit qu'on va attendre avant d'en acheter un que Apple corrige les défauts. Mais du coup, les éditeurs de logiciels hors Apple, en attendant, n'ont pas un intérêt fou à sortir des logiciels pour l'Apple 3. Et Apple a, par un choix qui se comprend, qui aurait pu être un choix pertinent, hein, c'est toujours facile après coup de dire que c'est la cause de l'échec d'un produit. Mais en fait, quand Apple a conçu l'Apple 3, ils étaient conscients du fait qu'évidemment, il fallait qu'ils capitalisent sur le succès de l'Apple 2. Et en même temps, ils voulaient faire un ordinateur qui était significativement plus performant et donc assez différent, pas avec le même microprocesseur, etc. Donc, nativement, l'Apple 3 ne pouvait pas faire tourner les logiciels pour Apple 2. Mais, encore une fois, Apple était parfaitement conscient du fait que s'il repartait à zéro, là, ce serait quand même un peu compliqué. Donc, ils ont prévu un programme, un logiciel d'émulation qui peut faire fonctionner un Apple 3 comme un Apple 2. Donc, a priori, vous me direz, c'est bien, puisque l'Apple 3 va bénéficier de toute la bibliothèque de logiciels de l'Apple 2. C'est curieux de dire ça, puis de dire qu'ils n'ont pas réussi à lancer les externalités de réseau. Là où ça se gâte un petit peu, c'est que, comme malgré tout, l'Apple 2 se vend encore très bien, qu'ils font des bonnes marges dessus, que c'est ce qui fait vivre l'entreprise, eh bien, ils ont peur de le cannibaliser trop vite. Ça, c'est un phénomène qu'on voit très souvent, hein, dans les entreprises où, on lance un produit, on aimerait bien que, il aille plutôt conquérir de nouveaux utilisateurs, éventuellement qu'il serve de successeur à l'Apple 2 pour des utilisateurs exigeants, mais qui ont déjà un Apple 2, mais on ne voudrait pas qu'ils prennent des parts de marché à notre, en tout cas pas massivement, à notre produit principal. Hein, c'est comme quand, on aura l'occasion d'y revenir, quand Kodak lance des produits photographiques numériques. Leur souhait est quand même que la substitution, s'il doit y en avoir une, avec la photo argentique, se fasse le plus lentement possible. Donc, sans aller jusqu'à dire que c'était le cas chez Apple, malgré tout, on ne veut pas qu'elle soit trop violente, trop accélérée. Et alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire en sorte que quand l'Apple 3 fonctionne en mode émulation d'Apple 2, il n'est pas plus rapide qu'un Apple 2. Donc en fait, quand il fait tourner des logiciels spécialement écrits pour lui, il est plus rapide que l'Apple 2, hein, évidemment, c'est un ordinateur intrinsèquement plus performant. Mais quand il fait tourner les logiciels pour Apple 2, alors là, il n'est pas plus performant qu'un Apple 2. Mais alors on voit bien que combiné aux problèmes de qualité de départ qui font que les ventes sont décevantes au démarrage, et que donc il y a assez peu de logiciels spécifiques pour l'Apple 3 qui sont proposés par les éditeurs, du coup, celui qui achète un Apple 3, il va avoir certes accès à la bibliothèque de l'Apple 2, mais si c'est pour ça, si c'est les logiciels de l'Apple 2 qui l'intéressent, en fait, il va avoir payé plus cher pour un ordinateur qui les fera fonctionner à la même vitesse qu'un Apple 2. Et probablement, parce que dès qu'on rajoute une couche logicielle, hein, on rajoute aussi des risques de bugs, hein, donc probablement aussi avec plus de plantage, entre guillemets. Donc finalement, il achète un ordinateur plus cher, dont il a entendu que il avait des problèmes de surchauffe, le tout pour faire fonctionner des logiciels sans qu'ils tournent plus rapidement. Donc le seul intérêt, c'est de faire le pari qu'à un moment donné, il y aura des sorties massives de logiciels pour Apple 3, sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Et le résultat, c'est que ben voilà, les données que j'ai pu récupérer, c'est que à la fin de l'année 1983, il y avait 75 000 Apple III en service. Donc la base installée, hein, était de 75 000 unités, alors que pour l'Apple II, c'était 1,3 million. Donc vous voyez bien que quand vous êtes éditeur de logiciels, il n'y a pas photo, hein. Et puis comme on est 3 ans après la sortie de l'Apple III, vous n'êtes plus à vous dire ça finira par décoller. Vous avez compris que c'était fini. Donc vous voyez que s'ils n'avaient compté que sur ce projet-là, Apple aurait pu avoir, on va le dire, aurait pu décliner, notamment dans la deuxième moitié des années 1980, ça aurait pu être ben, un lent déclin qui se serait sûrement fini par être moins, enfin qui aurait fini par être moins lent, sans doute. Heureusement. Ils ont aussi lancé, hein, en parallèle un autre projet plus original. Alors qu'il y ait, donc là, plus sous l'impulsion de Steve Jobs, qui pilotera le projet, et qui lui vient d'une visite qu'il avait faite dans le grand laboratoire de Xerox, hein, le Xerox Park, où il avait vu une merveille, un ordinateur sur lequel, au lieu d'entrer des instructions, eh ben, on cliquait sur des icônes avec une souris. Donc ça, il a trouvé ça formidable. Et comme il avait en tête depuis le début qu'il fallait rendre les ordinateurs accessibles à tous, etc., ben, forcément, ça l'a particulièrement marqué. Et du coup, ben, il a lancé un projet. Alors, Apple a acquis une licence auprès de Xerox en échange d'actions Apple. Elle n'aura pas coûté des dollars. Et puis, bah, il lance ce projet d'ordinateur à interface graphique. Donc, il est lancé en 1983. C'est une magnifique machine pour l'époque, hein. L'ordinateur classique à l'époque, il avait 64 kilo-octets de mémoire, par exemple, parfois 128, mais c'était plutôt 64. Bientôt on aura des ordinateurs, enfin on en a peu en standard, mais certains ordinateurs peuvent aujourd'hui atteindre les 64 gigaoctets de mémoire, c'est-à-dire 1 million de fois plus. Eh bien, lui, il a 1 mégaoctet de mémoire, donc 8 à 16 fois plus que l'ordinateur classique de l'époque. Il a donc son magnifique son système à interface graphique. Il est avec un système d'exploitation relativement poussé pour l'époque, hein, on peut ouvrir plusieurs logiciels en même temps dessus, ce qui n'est pas du tout commun à l'époque, ce qu'on appelle un système multitâche, auquel on est complètement habitué aujourd'hui, mais à l'époque, on peut lancer alors, en général qu'un seul logiciel à la fois, un seul logiciel d'application à la fois. Mais voilà, c'est aussi un échec. Alors, pas aussi cuisant, puisqu'au total, il se vendra entre 150 et 200 000, je crois, Lisa. Ce qui, compte tenu de son prix, est quand même un nettement moindre échec que l'Apple 3. Hein. Mais voilà, là encore, à part les logiciels, puisque là, Apple avait écrit une série de logiciels, puisqu'évidemment, ils savaient très bien que quand ils allaient lancer l'ordinateur, personne ne connaissait les interfaces graphiques, donc il y aurait zéro logiciel d'éditeur indépendant prévu pour le Lisa. Donc là, eux, ils avaient écrit une suite, enfin, les logiciels les plus classiques, hein, un tableur, un traitement de texte, etc., de base, qui étaient livrés quand même. Pour les 10 000 dollars, vous aviez droit quand même à ces logiciels avec. Mais bon, c'est vraiment trop cher, hein. 10 000 dollars de 1983. Là, je n'ai pas fait la conversion précise avec une. Mais je dirais comme ça, à vue de nez, que ça correspond peut-être à 40 000 euros d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse voir si vous achèteriez un ordinateur à 40 000 euros. Et comme j'imagine assez bien la réponse, vous comprenez du coup pourquoi ça a été un échec. Du coup, Apple se rend compte très vite hein, que le problème, c'est le prix. Ça, c'est, et du coup, très vite, Steve Jobs lance un projet en peu de temps, hein, mené très rapidement pour simplifier Lisa. Système d'exploitation plus simple, mais qui du coup nécessite moins de mémoire, moins de puissance. Et il coûtera moins cher. Alors, pour l'anecdote, au passage, Lisa, c'est un acronyme, et pendant longtemps, Steve Jobs a dit c'est uniquement un acronyme. Je me souviens que le A, c'est Architecture. Après les autres, je ne me souviens plus. Je ne m'en souviens jamais. Mais pour l'anecdote, il s'agit en fait aussi du prénom de la fille qu'il refusait de reconnaître, de la fille de Steve Jobs. Donc il avait. À ce moment-là, c'est à peu près tout ce qu'il a fait comme père, hein, c'est donner un nom. Enfin, donner le nom de sa fille à un ordinateur. Plus tard, il renouera avec sa fille et je crois qu'il la reconnaîtra. Ça c'est un peu, c'est pour l'anecdote, hein, ça fait pas vraiment partie du cœur du cours, mais on voit parfois que les noms sont choisis pour des motifs autres que les qualités que l'on attend d'une marque, même si en l'occurrence, elle a plutôt les qualités aussi d'une marque, en ce sens que c'est court, facile à retenir, ça me semble assez facile à prononcer dans la plupart des langues, etc. Donc des points sur lesquels on reviendra plus long, donc un petit peu sur les questions de propriété intellectuelle. Vers la fin de. Pas de ce. Pas la fin de ce cours-là, mais là aussi dans la gestion d'un projet innovant. Il y a plein de choses que je garde pour. Puisque c'est un peu la. Si vous voulez, c'est un peu la suite du cours, mais vraiment plus appliqué, quoi. Et alors, vous l'avez deviné, hein, la version simplifiée de Lisa, c'est ce petit truc-là, hein, rigolo, avec son petit écran, et puis. C'est le Macintosh. Le Macintosh est proposé à 2500 dollars, ce qui est encore cher, hein, par rapport à la plupart des ordinateurs à l'époque, mais enfin, c'est quand même 4 fois moins cher que Lisa, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Il se vend plus que Lisa, clairement, hein. Mais finalement, on est quand même loin des scores de vente de l'Apple II. À ce moment-là, du coup, Apple se trouve un petit peu dans une situation compliquée, d'autant que les ventes plafonnent, c'est-à-dire que 100 000 unités sur 6 mois, si c'était en pleine croissance, ce serait pas grave du tout. Mais là, finalement, après la croissance classique des premiers mois, ça a tendance à plafonner. L'une des raisons de ça, c'est que il a 128 Go de mémoire, lui, hein, ça coûte cher la mémoire à l'époque, parmi les choses qu'on a fait baisser pour réduire le prix, il y a la quantité de mémoire. Et manifestement, pour un système avec interface graphique, là, les 128 Go de mémoire, dès qu'on fait fonctionner des logiciels en plus du système, Ça fait, pour utiliser un terme familier, ça fait planter la machine très fréquemment. Elle était vraiment très instable. En plus, si jamais ces équipes avaient suivi vraiment les instructions de Steve Jobs, ça aurait été un problème très très difficile à résoudre, puisque lui tenait à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'extension de mémoire. Là encore, hein, il voulait quelque chose de très simple, pas ces systèmes où, comme l'Apple 2, l'Apple 3, on pouvait rajouter plein de cartes qui rajoutaient des éléments pour le son, pour le, etc. Là, il voulait le tout intégrer. Hein. Il y a quelques éléments pour gérer le son, mais qui sont intégrés directement à la machine, et elle n'est pas prévue pour ajouter ce qu'on appelle des cartes d'extension. Heureusement, ils vont en fait, contre son avis, laisser un espace pour pouvoir rajouter relativement facilement une barrette de mémoire. Donc, si bien que les utilisateurs pourront quand même la faire monter à 256 kilo-octets. Mais du coup, on peut se poser la question finalement, on a un ordinateur dont les ventes ne démarrent pas si fort que ça, de sorte que ce n'est pas forcément super intéressant pour des éditeurs de logiciels de se lancer dans la conception. En plus, dans la conception lourde de logiciels, puisque forcément un système à interface graphique, c'est plus difficile à programmer, hein, c'est plus lourd à programmer qu'un système où on entre des lignes de commande. Hein, puisqu'il y a justement toute la partie graphique à programmer, alors qu'elle n'existe pas sur les autres ordinateurs. J'exagère un peu. Il y a quelques logiciels qui permettaient de faire des graphiques. Alors ça vous ferait rire, hein, les graphiques de l'époque, mais donc pas super intéressant. Et puis on voit qu'il y a des problèmes de fiabilité. Donc ça rappelle quand même beaucoup l'Apple 3, même si on voit que les ventes sont supérieures à celles de l'Apple 3, hein, parce qu'il s'est déjà vendu en quelques mois plus d'unités qu'il se vendra en 3 ans d'Apple 3. C'est quand même un meilleur démarrage, hein, que l'Apple 3, mais... là, va y avoir un peu d'opposition, hein, au sommet d'Apple, entre le conseil d'administration, un peu aussi entre Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Jobs considère qu'il faut tout jouer sur le Macintosh, que c'est l'avenir. Là-dessus, il n'a pas tort sur le fait que les ordinateurs tendront plutôt vers ça que vers l'Apple 2, hein. Mais il dit, voilà, faut tout jouer dessus, et donc il faut réduire considérablement le prix du Macintosh, quitte à le vendre à perte, pour justement pouvoir générer du volume, et du coup, que les éditeurs de logiciels se mettent à en créer pour le Macintosh. Évidemment, ça aurait été une stratégie extrêmement risquée, qui aurait pu mettre en péril financier l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, hein, en 1984, Apple s'est séparé de Steve Jobs. Hein, on a tendance à présenter les choses comme un truc horrible, cruel, et puis d'ailleurs après, ils ne seront plus du tout aussi innovants, et il faudra qu'ils retournent le chercher pour redevenir une entreprise innovante, sans que ça soit totalement faux, hein, ce que je viens de dire. Néanmoins, je peux vous dire clairement que si j'avais été membre du conseil d'administration d'Apple à ce moment-là, j'aurais voté contre la proposition de Steve Jobs. Elle était vraiment extrêmement risquée, puisque si jamais les volumes ne s'enchaînaient pas et ne s'enchaînaient pas très vite, l'entreprise aurait fait faillite. Donc, il faut bien voir qu'à ce moment-là, ça doit être à peu près 90% des ventes, voire plus, sont des ventes de l'Apple 2, et ils proposaient d'arrêter immédiatement l'Apple 2. Donc voilà, je vous laisse vous dire en toute franchise à vous-même ce que vous auriez fait. Mais évidemment, à partir du moment où le conseil d'administration est en désaccord total avec la stratégie proposée par un dirigeant, le dirigeant s'en va. Hein. Ce n'est pas le conseil d'administration qui s'en va. Eh bien, fort heureusement, malgré le départ de son concepteur, hein, principal, le Macintosh va finalement vivre une vie relativement confortable et va faire vivre Apple pendant longtemps. En fait, à son tour, comme l'Apple II en son temps, le Macintosh va bénéficier de produits complémentaires. Alors, le premier est un produit qui est proposé par Apple eux-mêmes. Donc, bon, ça, c'est pas encore un effet d'externalité de réseau, puisque comme c'est l'entreprise elle-même, il n'y a pas d'externalité. Mais il lance une des premières. Les imprimantes laser existaient déjà, hein, mais une des premières imprimantes laser, on va dire, à peu près accessible. Et en termes de prix, et en termes de volume occupé sur un bureau, etc. Donc c'est. Et on voit bien que puisqu'on a un ordinateur qui gère les graphismes comme aucun micro-ordinateur ne les avait gérés avant, et probablement aucun ordinateur, du coup, bah, le fait d'avoir une imprimante laser est quelque chose d'extrêmement important pour en tirer tout le bénéfice. Il faut bien voir qu'à l'époque, les imprimantes à jet d'encre n'existaient pas. Et donc, l'alternative à l'imprimante laser, vous avez peut-être déjà vu ça dans des films, c'est des imprimantes dites à aiguille qui faisaient un bruit terrible parce que les aiguilles venaient frotter sur les feuilles et puis qui étaient à la fois lentes et qui étaient conçues pour imprimer du texte. Alors on pouvait en empilant vous voyez que on peut faire plein de petits pixels et à force on peut faire une courbe qui monte, etc. Alors c'est pas une courbe lisse, c'est une courbe pleine de petits carrés. On utilise les mêmes carrés que pour faire le A ou le B pour faire un graphique. Donc on pouvait hein, imprimer un graphique moche, mais du coup avec la laser on peut imprimer un graphique pas moche, ce qui est un progrès. Dans la foulée, et alors là par contre, c'est un éditeur de logiciel autre qui décide de créer le premier logiciel de publication assistée par ordinateur. Et alors là, à ce moment-là, le Macintosh ne s'est pas encore énormément vendu, mais il est le seul encore à ce moment-là ordinateur à pouvoir proposer ses capacités de gérer un écran graphique vraiment. Et donc, bah, un logiciel de PAO, pardon, je n'ai pas précisé pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est publication assistée par ordinateur. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui le logiciel de PAO le plus répandu, c'est probablement Adobe InDesign, pour vous donner un. Bon, il faut voir qu'à l'époque, un logiciel de PAO avait à peine les capacités qu'ont nos logiciels de traitement de texte aujourd'hui, mais tout était décalé. Un logiciel de traitement de texte, était capable d'aligner les paragraphes, ce genre de choses, mais enfin, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Enfin, j'exagère un peu, on pouvait choisir. Est-ce qu'on pouvait choisir police de caractère? Peut-être quand même. Mais enfin, on était très loin de pouvoir, par exemple, décider de comment on mettait une image sur une page et comment on mettait du texte autour. Ça, c'est typique des logiciels de publication assistée par ordinateur. Un traitement texte de l'époque était incapable de le faire. Word est capable de le faire aujourd'hui, mais c'était pas le cas. Et donc, typiquement, la presse va s'emparer des logiciels de PAO, l'industrie de l'imprimerie jusqu'à un certain point. Ça va faire du Macintosh l'ordinateur de référence dans le monde de ceux qui utilisent beaucoup le graphisme. Hein, donc, les. bah, tout ce qui est agence de communication, de publicité, tous ceux qui, bah, les imprimeries qui sont capables de concevoir et pas seulement d'imprimer des flyers, la presse, etc. Et donc dans ces milieux-là, et aussi dans le milieu de l'éducation, parce qu'Apple va vendre à très bas prix des grosses quantités de Macintosh dans les lycées, les universités, etc., en se disant que bah, il faut que les étudiants s'habituent à utiliser leurs machines et comme ça, après, quand ils seront adultes ou quand ils seront cadres, ils achèteront leurs machines. Donc ça, c'était un peu moins gagné comme pari, mais ça a toujours été une tradition chez Apple d'être très présent dans le monde de l'éducation. Mais en tout cas, voilà, Apple, enfin le Macintosh devient vraiment la norme, le standard dans les entreprises liées au graphisme. Mais par contre, bah, c'est les seuls. C'est-à-dire que on y reviendra, hein, mais entre-temps, avant le lancement du Macintosh début 1984, IBM avait lancé son IBM PC et l'IBM PC avait largement conquis les entreprises et notamment les grandes entreprises. Et donc là, bah jamais le Macintosh n'arrivera à remettre en cause la domination du PC. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, hein, on a une grande majorité d'entreprises qui sont équipées de PC. D'organisation en général, hein. Je sais que nos services informatiques tolèrent que, alors tous les personnels administratifs sont équipés en PC et ils tolèrent les Mac chez les enseignants-chercheurs parce que l'enseignant-chercheur c'est un peu comme un étudiant, c'est un peu têtu puis ça tient des fois à son Mac. Mais enfin bon, il les déconseille clairement. Ils essayent plutôt de décourager l'utilisation de Mac dans le cadre du système d'information. Et par contre, dans le monde de la presse, de l'édition, etc., ils sont. Alors, c'est moins qu'à l'époque. Moins que dans la deuxième moitié des années 80, parce que maintenant, bah, tous les grands logiciels d'édition, bah, notamment toute la suite Adobe de Photoshop à InDesign, donc, sont aussi disponibles pour PC, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc la domination est moins forte, mais il y a encore énormément de Mac dans ces milieux-là. Donc vous voyez, ça, des fois, des positionnements sur le marché qui se font, là on est au milieu des années 80, hein, donc on est il y a pratiquement 40 ans, eh bien peuvent avoir un impact à très long terme. Donc, bah, du coup, ceci étant, hein, avec toutes ces niches, parce que si on combine toutes les agences de com, tous les journaux, et puis y compris parfois des journaux locaux, etc., tous les imprimeurs qui font aussi du numérique, parce que bon, à l'époque, une imprimerie, c'est encore souvent de l'imprimerie traditionnelle, mais peu à peu, ils vont basculer au moins partiellement sur du numérique. Ça fait quand même pas mal de monde, bon, plus un certain nombre de particuliers. Qui bah, à un moment donné ont acheté un Macintosh et qui du coup vont acheter ne vont pas vouloir perdre tous leurs investissements en logiciel et en périphérique et donc vont racheter des versions successives du Macintosh. Donc tout ça réuni, ça va leur faire vendre bah, des millions de Macintosh chaque année, donc de sorte que le Macintosh va effectivement finir par supplanter l'Apple II. Alors, Apple II qui, assez bizarrement, va rester dans la gamme très longtemps. Je dis assez bizarrement parce qu'autant le fait qu'il ne l'ait pas enlevé en 84, ça paraît tout à fait logique et sensé. Autant le fait qu'il y ait encore des Apple II vendus par Apple au début des années 90, il était quand même assez nettement dépassé, même s'ils l'ont fait évoluer, hein. Ils avaient même conçu une petite interface graphique pour l'Apple II. J'en ai trouvé une photo sur le web. J'ai pas mis la source, c'est pas bien. Mais bon, voilà à quoi ça ressemblait. Finalement, c'est comme ça, en première approche, ça paraît pas si différent de l'interface du Mac. Hein, on n'est pas sur les définitions des écrans avec les définitions d'aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ça donne une petite idée de à quoi ressemblait une interface graphique de l'époque. Mais le Macintosh, lui, il va pouvoir évoluer de manière beaucoup plus forte, parce que de la même façon que, compte tenu de la masse de PC vendus, eh bien, les fabricants de semi-conducteurs vont continuer à faire des microprocesseurs qui étaient compatibles les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on parle encore parfois de la série X86 d'Intel. C'est-à-dire que théoriquement, ce que j'ai moi là dans mon PC, ou vous si vous êtes sur PC, sont des microprocesseurs qui sont encore censés pouvoir faire tourner les logiciels qui tournaient sur les premiers PC. Alors, c'est un peu théorique, hein, parce que. Au bout de plusieurs générations, quand même, ça finit par s'étioler un peu, cette compatibilité. Mais il n'empêche que d'une génération à l'autre, ils sont compatibles. Et il se passe là. Et puis, évidemment, ils vont adapter tout ce qui est bus de données, cartes graphiques, etc. Donc, tous les éléments du PC vont évoluer, mais avec toujours le souci d'être compatible avec les versions précédentes. Et donc, il se passe la même chose du côté du Macintosh, alors que l'Apple II étant quand même un ordinateur en déclin qui a été conçu sur la base de microprocesseurs 8 bits, donc d'architecture des microprocesseurs de la fin des années 70, si vous voulez, hein, du coup, il était très difficile de le faire beaucoup évoluer. Alors que le Macintosh, lui, va bénéficier de nouveaux microprocesseurs qui, à chaque fois, sont 3 ou 4 fois plus puissants que la génération d'avant, mais compatibles, comme leur nom l'indique. Vous voyez, le premier, c'était le Mac. Était doté d'un Motorola, puisque c'était microprocesseur Motorola 68000, et puis du coup, y aura des Mac dotés du 68020, 30, 40. Alors pourquoi 20, 30, 40? C'est par analogie avec le fait que chez Intel en face, la deuxième génération va s'appeler 8286, la troisième 8386, 486. Donc on voit qu'ils font le parallèle, quoi. Et puis le lancement du premier Macintosh portable, alors avec du retard sur le PC, puisque le premier PC portable a été lancé par Compaq, je crois que c'est dès 83 ou 84. Mais en même temps, c'était plus des ordinateurs transportables, hein, côté PC. Et là, ça ressemble quand même plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est relatif, mais enfin bon, on a quand même cet écran qui se soulève pour découvrir le clavier. On est quand même dans l'esprit davantage de nos PC d'aujourd'hui, de nos portables d'aujourd'hui. On va laisser Apple à la fin des années 80, il se porte encore bien. On va voir que ça va se gâter un peu dans les années 90, mais il ne faut pas trop spoiler la suite. Pour une fois, je vais faire la pause pile au milieu. Ce serait dommage de démarrer un nouveau chapitre alors qu'on est justement au milieu. Donc, je vous propose, sauf question de votre part, hein, encore une fois, hein, j'ai tendance à être bavard et à enchaîner par défaut, surtout, comme ça s'est fait d'ailleurs la séance précédente, c'était bien. Surtout, vous n'hésitez pas, hein, à m'interrompre si vous avez des questions. Mais donc, si ce n'est pas le cas, je vous propose de faire une petite pause et puis voilà, de nous retrouver comme d'habitude au bout de 5-10 minutes.